de la loi sur les monuments historiques. Partout en France, plus de 16 000 monuments vous ouvrent leurs portes samedi 14 et dimanche 15 septembre. Retrouvez les Journées européennes du patrimoine sur radiofrance.fr.
Viva l'opéra! La saison d'opéra filmée sur les plus grandes scènes lyriques reprend au cinéma à partir du 19 septembre. Nabucco à Milan, Così fan tutte à Salzbourg, Rigoletto à Aix-en-Provence, La fille du régiment à Vienne. Et aussi 7 spectacles en direct de l'Opéra National de Paris. Toutes les infos sur ugc.fr et francemusique.fr. France Musique, une radio de Radio France.
France Inter.
La voix est libre.
Il paraît qu'il paraîtrait que c'est l'heure de la basse, si j'y suis, alors c'est parti, bip.
Contrairement à ce que disent beaucoup d'AMG depuis la rentrée, la liberté d'expression reste totale sur France Inter. La preuve, c'est que je peux même utiliser l'antenne de France Inter pour critiquer France Inter et même critiquer sa direction, et même celle de Radio France. J'ai même préparé une liste. Le premier point sur lequel je voudrais être critique, c'est celui-ci. Je voudrais dire simplement que...
Bonjour, j'étais vraiment très en colère quand l'émission de la Bassi J'y suis a été reléguée à 15h, à l'heure de la sieste pour certains, au lieu de 17h, heure du thé ou de la débauche pour ceux qui ont la chance de travailler, ou la malchance, ça dépend ce qu'on fait comme boulot. Alors là, je rage que maintenant la direction de France Inter ait supprimé l'émission du vendredi, jour privilégié des RTT, et par la même occasion qu'on ait tronqué le budget de 20%. Je suis quand même très étonnée que mes compères auditeurs ne se bougent pas plus que ça pour réclamer le rétablissement de l'émission de vendredi. C'est clair que France Inter cherche à faire perdre de l'audience et de l'influence à notre émission préférée d'investigation et de résistance, rare, vous en conviendrez, sur les ondes radiophoniques et télévisuelles de notre cher Hexagone. Bah oui, les gars, là-bas amasse toujours plus d'auditeurs malgré les changements d'horaire. Et ça en perturbe certains. Alors faut vraiment nous mobiliser, cher AMG, comme on dit. La prochaine fois, c'est la suppression pure et simple de l'émission qui nous pend aux oreilles. Je sais pas, moi, faites des propositions de mobilisation sur répondeur ou sur le site. Faut vraiment pas les laisser faire. En tout cas, merci Daniel et toute ton équipe pour l'excellence de ton émission. C'était Bridget de Paris.
Sujet d'une émission ce matin sur, je crois, service public. Suite à l'apparition d'un livre d'un Américain qui va être traduit en France... et qui énonce le fait que les pauvres votent à droite. Pourquoi les pauvres votent à droite? Mais c'est extrêmement simple, la réponse. Extrêmement simple. Il n'y a pas à sortir de ce cadre-là. C'est que la gauche est abstraite dans le monde d'aujourd'hui. C'est très difficile de s'y reconnaître et de s'y repérer là-dedans. C'est normal, c'est progressiste. C'est évidemment à l'encontre d'une société extrêmement normative. Et qui incarne mieux la norme, le normatif? C'est la droite. La droite, c'est très rassurant, c'est très clair, c'est très précis, c'est très simpliste aussi, mais c'est très net, c'est sans bavure, c'est très rassurant. Donc voilà pourquoi les pauvres qui votent à droite et à extrême droite, les pauvres, enfin les petits, le petit peuple, ceux qui ne voient pas plus loin que leur bout de leur nez parce qu'ils sont préoccupés par beaucoup d'autres choses qui les annihilent, qui les préoccupent, et alors voilà, c'est tout, c'est clair, c'est simple. Qu'est-ce que c'est chiant et tout le monde en bouffe de ça. Même France Inter, obligatoirement, la preuve.
Mauvaise pente. À Notre-Dame de la Garde, soudain me vint une érection. Je priais Dieu que mon hallebarde, jusqu'au soir, tienne la position. Hélas, arrivé au vieux port, est-ce un effet de la descente, où n'avais-je prié assez fort, mon arme avait suivi la pente. Salut.
Alors, les contes des mille et une nuits. Mille et une nuits. Il n'y aurait pas une histoire d'heures supplémentaires non déclarées là-dedans?
Merci, merci, merci et bravo pour tous ces messages, nombreux messages, beaucoup de messages aujourd'hui reçus et écoutés attentivement dans la boîte vocale de la Basse. J'y suis, je voudrais revenir un peu sur le livre « Pourquoi les pauvres votent à droite ». C'est un livre du commentateur américain Thomas Frank que nous connaissons bien. Et le livre est publié chez Agone avec une préface de Serge Halimi. Effectivement, un bouquin de référence. Il y a des sujets importants aujourd'hui et ces jours derniers. L'intervention en Syrie, la grève pour les retraites demain, la charte pour la laïcité ce matin. Et pourtant, depuis quelques jours... un sujet intéresse toutes les rédactions, tout le petit monde des médias, c'est Hervé Kempf. Hervé Kempf a quitté Le Monde. Comment un journaliste bien en place depuis 15 ans dans le journal de référence, peut-il soudain quitter volontairement ce titre prestigieux ? Eh bien, Hervé Kem, que vous connaissez, vous le connaissez de façon générale, mais il est venu assez souvent dans notre émission, présenter notamment ses bouquins, Hervé Kem affirme avoir été censuré par sa direction sur le dossier Notre-Dame-des-Landes. Pour lui, le quotidien, son quotidien, a subi des pressions pour ne pas traiter l'affaire. Alors la réponse de sa direction est claire et nette, insinuation délirante et infamante, et en même temps sa direction lui reproche son engagement. Mais en miroir, derrière cette rupture, c'est bel et bien les engagements du journal des journaux qui sont mis en cause et les engagements d'une profession si souvent drapée dans la noble toge de l'objectivité. Un dessin de Plantu représente Kempf en train de rebondir et il tombe du monde, mais il rebondit vers Reporter TE2RE, le site sur lequel il va s'investir, travailler, rebondir. Ça ne devrait pas être une grande affaire, ça, hein, qu'un journaliste quitte parce que ça ne lui plaît pas et s'en aille ailleurs, ça ne devrait pas être un tel phénomène. Ce qui rend les choses plus intéressantes, c'est que Le Monde reste un journal de référence, le journal sur lequel tout le monde se cale. On dit « Ah mais non, oui, enfin quand même, tout le monde se cale sur ce journal qui garde une influence considérable sur la fabrique de l'opinion. La fabrique de l'opinion, elle commence là, et c'est dire si un journaliste avec une certaine importance, un certain engagement, le critique, c'est intéressant. Et puis, il y a aussi évidemment, qu'est-ce que c'est l'engagement aujourd'hui, et puis qu'est-ce que c'est que le courage, tout simplement. La réponse, ma maman la donnait, le courage est toujours récompensé. Donc on est tranquille jusqu'à 16h. Dans la basse, si j'y suis, vert de rage, Hervé Kempf quitte Le Monde. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour Daniel, bonjour à tous les AMG, je suis ravi de vous retrouver pour cette rentrée. J'écoutais l'émission d'aujourd'hui là, avec Le Monde diplomatique et j'étais un peu surpris lors de la première intervention, je crois que c'est Serge Halimi, qui parle de l'idée de pouvoir révoquer les élus et tout ça. Il dit que ça se fait déjà au Venezuela, ce qui est vrai. Tu lui poses la question s'il y a des politiques français qui semblaient intéressés par cette idée et il répond que non, a priori. Hein. Mais bon, la radio était un peu loin, j'ai peut-être mal compris, mais il faut savoir quand même que c'est dans le programme du Front de Gauche. Hein, voilà, donc juste un petit complément d'information. L'idée existe déjà en France, il faut juste, voter pour les bonnes personnes. Voilà, allez, très bonne rentrée à tous, au revoir.
Salut Daniel, comment ça roule? Nous ça marche. On a un groupe de potes qui allons transhumer avec un troupeau du Lot à la Drôme. On part mercredi 11 septembre avec 75 brebis sur 400 bornes. Donc on cherche à partager cette aventure avec des gens qui se reconnaissent un peu dans cette folie. Si vous voulez en savoir plus sur cette marche, eh ben, rendez-vous sur le blog desbrebisenmarche.wordpress.com. Allez, à demain sur le chemin, et puis bon courage pour les autres.
Amis de l'île et du Nord, bonjour. Et oui, c'est la rentrée. Venez nombreux donc ce soir à 20h au Café Repère L'Imaginaire dans le Vieux-Lille. Venez avec vos idées, vos propositions, sujets et thèmes de réunion pour l'année à venir. À ce soir donc, Café Repère L'Imaginaire dans le Vieux-Lille.
La vacherie, de ce lieu tu pars, a dit le petit chef, je veux en faire, ENFER, mon airport.
Le monde change.
Et Lucifer.
Le projet d'aéroport, il n'a pas de raison d'être.
Ils veulent faire voler plus d'avions.
Un aéroport, c'est bien, déjà.
Couler toujours plus de béton.
Le monde change.
C'est un journal dans l'information duquel on avait confiance.
Le monde, comme son nom l'indique.
Même si on savait qu'il avait certaines orientations, un journal qui prenait des positions, il n'est pas anormal de prendre des positions.
Le monde change.
Et dans le rendu de l'information, il y a l'exactitude et la vérification des faits.
Le projet d'aéroport. l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est un vieux projet quoi, qui date de 1967. Un projet qui veut construire une infrastructure aéroportuaire sur une zone bocagère, une zone agricole.
Qu'est-ce que c'est pour vous un journaliste engagé? Est-ce que c'est un pléonasme?
Moi, je vais d'abord dire que pour l'instant, je suis un journaliste dégagé.
Projet
dégagé.
Grandiose comme ça qui risque
dégagé.
Non seulement détruire...
Le monde change.
C'était, si vous voulez, un journal plutôt de gauche.
Le projet doit s'étendre sur 1700 hectares.
Selon les critères de il y a 20 ans.
C'est un projet inutile et dépassé.
Qui pouvait être lu par les gens de droite, parce qu'on savait que c'était sérieux.
Le coût de ce projet est faramineux.
Et qu'il donnerait aussi la parole et qu'il ferait sentir les différentes visions possibles d'une même polémique et d'un même sujet.
Nous tentons de construire ici des solidarités, des confiances, de la puissance collective, des moyens d'action.
Salut, c'est Daniel Mermès et là-bas, j'y suis avec Hervé Kempf qui paye l'orchestre choisi la musique.
Flight number 2, arriving from New York.
Vert de rage, Hervé Kempf, c'est le titre Vert de rage du papier du médiateur du Monde ces jours-ci qu'on a pu lire dans le journal que vous avez quitté, mon cher Hervé Kempf. Et vous allez nous expliquer un petit peu pourquoi vous avez claqué la porte, assez doucement finalement.
Je n'ai pas claqué la porte, j'ai proposé à Louis Dreyfus, le directeur de la publication du journal, une rupture conventionnelle de contrat, parce que nous en étions arrivés, enfin, dans une relation tellement difficile depuis plusieurs mois avec Le Monde, et essentiellement à partir du moment où, en novembre 2012, ce journal m'a empêché de faire des reportages et des enquêtes sur le dossier de Notre-Dame-des-Landes, alors que j'avais ouvert ce sujet en 2009 dans une grande page dans Le Monde, que je l'avais suivi attentivement et que j'avais sorti plusieurs informations exclusives à ce propos, et ils m'ont interdit de le suivre. Malgré la proposition que je faisais de, par exemple, travailler en commun avec des camarades, ce qui est tout à fait possible, et j'ai toujours coopéré sans souci avec des camarades, c'est bien d'avoir plusieurs points de vue, plusieurs approches. J'ai proposé de faire des reportages dans Le Monde Magazine, avec un ton un peu plus distancié. Tout a été refusé. Donc ça a généré une crise extrêmement grave, puisque le contrat de confiance entre un journaliste et un journal était rompu. Et particulièrement avec ce journal Le Monde, que j'ai beaucoup aimé, que je connais.
15 ans.
Oui, j'y ai travaillé pendant 15 ans. C'était le journal que mon papa lisait. J'allais le chercher au kiosque quand il coûtait 30 ou 40 centimes. C'était une partie de ma vie. Mais là, on était arrivé à une évolution. Il y a eu ce moment majeur où c'était une interdiction de travailler sur un sujet qui était important. Et là, pour moi, c'était inacceptable. Ça a enclenché une crise difficile, délicate. Et donc, plutôt que de traîner, d'être asphyxié lentement et d'être pris dans ce qui va arriver dans ce journal maintenant et dans sa vie sociale, j'ai préféré proposer une rupture conventionnelle de contrat et prendre le risque de partir, parce que c'est aussi un risque économique. Il faut quand même le rappeler, je vais perdre du revenu, mais je fais mes choix. Et là, mon principal employeur va être Pôle emploi.
Alors, Le Monde, entre Le Monde que lisait votre papa quand vous étiez petit, Le Monde dans lequel vous êtes rentré il y a 15 ans, et Le Monde d'aujourd'hui, on peut dire que Le Monde a changé. Je parle et du journal et du monde qui nous entoure. C'est quand même pas mal de retracer un petit peu l'historique de ce journal et les bouleversements récents.
En trois mots, créé en 1944 par Hubert Bovemery, qui est un personnage très intéressant, qui lance un journal à partir du Temps. Le Temps était un journal très sérieux, très austère, dans les années 30, très respecté, mais qui était vendu, qui était aux mains du Comité des Forges, qui était aux mains de l'oligarchie de l'époque. Et puis, avec la Résistance, évidemment, le bouleversement de la Deuxième Guerre mondiale, en 1944, une nouvelle presse apparaît. Hubert Bovemery recrée Le Monde à partir du Temps. Et puis, journal indépendant, qui a d'ailleurs une première crise rédactionnelle sur des choix politiques forts. C'est-à-dire que Le Monde prend position en 1950-51. Hubert Bovemery prend des positions autour d'une question qui est totalement oubliée maintenant, mais qui est la communauté européenne de défense, et en gros le rapport entre l'Europe, les États-Unis et l'armée et la militarisation de l'Allemagne, le réarmement de l'Allemagne. Et il y a un choix politique très grave et ses autres actionnaires font pression sur lui et essayent de prendre le pouvoir. Et là, il y a une bataille interne qui conduit à ce que les journalistes prennent le parti de Hubert Bovemery et vont conduire, en 1951, si j'ai bonne mémoire, à la création d'une société des rédacteurs et qui va avoir part au capital. Et à partir de ce moment-là, Le Monde devient quelque chose qui est devenu totalement extraordinaire, un journal qui est très largement contrôlé sur le plan capitalistique par ses journalistes. Et ça, ça va durer jusqu'en 2010, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Bon, ça c'est la première grande séquence. Et ça va faire la montée extraordinaire du Monde, les chiffres de vente étaient stupéfiants par rapport aux chiffres d'aujourd'hui. En mai 68, Le Monde arrive à 700 000 exemplaires. Après, il est un régime de croisière de 400, 500 000, enfin il faudrait vérifier. Mais voilà, un journal qui est Le Monde, ce que les gens de notre génération, enfin moi j'ai 56 ans par exemple, ça représentait énormément de choses.
Information et liberté, ce titre était celui choisi pour la première session culturelle de la Corporation des étudiants en droit de Bordeaux.
ORTF, 5 février 1962.
L'honnêteté est-elle possible dans l'information? Telle était la question que M. Bovemery, directeur du Monde, a développée lundi. L'objectivité pour lui est une équation entre le fait, l'objet et le sujet, et ce terme l'agace. Un objectif photographique lui-même n'est pas toujours objectif. Peut-on en exiger plus d'un œuvre? Et M. Bovemery, avec un souriant pessimisme de conclure, ce problème venu du fond des âges durera jusqu'à la fin des temps.
Change. Le Monde, comme son nom l'indique.
Le Monde, mieux informé.
Ça représentait avant tout, Hervé Kempf, une confiance pour le lecteur. Vous êtes journaliste, mais pour quelqu'un qui n'est pas journaliste, qui a une demi-heure ou trois quarts d'heure, une heure de sa vie à lire le journal par jour, c'est la confiance. Il ne peut pas tout vérifier, il ne peut pas tout savoir, il ne peut pas tout écouter, tout voir. Bon, il dit, je lis Le Monde, j'ai confiance.
La question de la vérification de l'information est essentielle. C'est un journal dans l'information duquel on avait confiance, même si on savait qu'il avait certaines orientations. C'est un journal qui prenait des positions, et il n'est pas anormal de prendre des positions. Mais dans le rendu de l'information, il y a l'exactitude et la vérification des faits. C'était, si vous voulez, un journal plutôt de gauche, selon les critères de il y a 20 ans, qui pouvait être lu par les gens de droite, parce qu'on savait que c'était sérieux, et qu'il donnerait aussi la parole, et qu'il ferait sentir les différentes visions possibles d'une même polémique et d'un même sujet. Bon. Revenons rapidement à l'histoire. Crise économique grave dans les années 80, une autre crise grave en 1995, et Jean-Marie Colombani et Louis Plenel, qui étaient journalistes au Monde depuis longtemps et aimaient beaucoup le journal, prennent le pouvoir, avec un troisième associé, Alain Minc, que je pense vos auditeurs et vos auditrices connaissent bien. Et puis là, il y a à la fois un renouveau du journal incontestable, il sauve la situation économique avec un jeu de recapitalisation, mais en partageant tous les partenaires, de façon à ce que les grosses entreprises aient 1%, 2%, c'est-à-dire ne puissent pas trop peser sur le journal. La société des rédacteurs garde une part capitalistique très importante, et par ailleurs, il y a une relance journalistique et éditoriale réelle, très dynamique, qui est menée notamment par Edoui Plenel, est en même temps imprimé une ligne rédactionnelle que l'on peut qualifier de néolibérale, incontestablement, mais qui, malgré tout, laissait en tout cas à des journalistes comme moi qui suis embauché en 98 sur les questions d'écologie, une très grande liberté de travail. Et que même s'il y avait une ligne dominante qui était cette ligne néolibérale, il me semble qui avait une diversité de points de vue très grande. À vrai dire, moi je suis embauché en 98, je ne fais pas très attention à tout ça, parce que ce qui me passionne, c'est que je vais pouvoir faire mon travail de porter les questions d'environnement auprès du plus large public possible, en faisant du journaliste, c'est-à-dire... voilà. Et donc je suis passionné, je me livre à fond, ça se passe très bien. Et puis arrive en 2003, un livre écrit par Pierre Péan et Philippe Cohen, extrêmement à charge, qui, disons, mélange le vrai et le faux, très, 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 très agressif, parfois injurieux, parfois très personnel, et qui critique très fortement cette orientation néolibérale du journal, en accablant les trois personnes que j'ai citées de tous les maux. Ça déclenche une crise très grave à l'intérieur du journal, qui va enclencher en fait un cycle qui va conduire à la situation actuelle. Et donc, après 2003, cette crise très grave de 2003, Le Monde va suivre une pente délicate qui va conduire au départ de Jean-Marie Colombani, d'Alain Minc, de Edoui Plenel, je ne sais plus dans quel ordre, je crois qu'Edoui Plenel est parti avant, et puis à la nomination d'Éric Fotorino, et puis la situation devient économiquement intenable, et donc il y a le rachat par messieurs Berger, Niel et Pigasse, et le rachat, disons-le clairement, par les capitalistes. Et quand je dis capitalistes, cela veut dire quoi? Cela veut dire des personnes qui ont à leur disposition des grandes masses de capitaux.
Le journal Le Monde change de main et c'est le trio baptisé BNP qui l'emporte.
BNP comme Berger, Niel et Pigasse, l'homme d'affaires Pierre Berger, le fondateur de l'opérateur Free Xavier Niel et le banquier Mathieu Pigasse.
RTL, 28 juin 2010.
Le conseil de surveillance du groupe Le Monde vient d'approuver leur offre par 11 voix sur 20, Laurent Marsic.
Oui, 11 voix pour et 9 abstentions. Ce n'est pas un large plébiscite comme avec le vote des employés du groupe. On est allé jusqu'à 100%, mais il n'y a pas eu de voix d'opposition. C'est important. Ce sont donc, vous l'avez dit, ces 3 hommes d'affaires qui ont donc été choisis. Ce soir, c'est un sentiment de soulagement chez les équipes du Monde. Écoutez la première réaction de Gilles Vancotte, président de la Société des rédacteurs du Monde.
Il y a un sentiment de soulagement. Tout ça ne se passe pas dans l'allégresse. On est quand même en train de donner les clés du groupe Le Monde à des investisseurs. Jusque-là, ce journal avait toujours été la propriété de ses actionnaires internes.
Alors, pour ce qui est de leur projet, les trois hommes proposent par exemple de décloisonner les rédactions, papier et internet, de travailler avec les effectifs présents. Le trio rappelle dans son projet qu'il n'est ni un groupe de presse, ni un fonds d'investissement et que cette offre est celle de 3 entrepreneurs qui, à titre personnel, investissent dans le développement du groupe Le Monde. Ce soir, le groupe a évité la case tribunal de commerce. Les négociations exclusives vont maintenant démarrer et durer tout l'été.
Le mot capitaliste est un mot objectif. Ça n'est pas un mot idéologique. Ça peut avoir, bien sûr, une analyse, une interprétation idéologique, mais voilà. Ce sont des gens qui ont beaucoup de capitaux, qui prennent une part très majoritaire dans la société du monde, je crois qu'elle est de 60%, et finalement, les journalistes perdent le contrôle de leur journal. Et à partir de là, pas ce que l'on pouvait penser qu'il arriverait, c'est que si vous êtes propriétaire de quelque chose, vous estimez assez légitimement que vous allez en faire à peu près ce que vous voulez.
Celui qui paye l'orchestre commande la musique.
Celui qui paye commande.
Ah oui, bien sûr. Sinon, pourquoi paierait-il ?
Il nomme des directeurs qui vont nommer des directeurs adjoints, qui vont nommer des rédacteurs, qui vont noter toute une hiérarchie de gens qui seront d'accord avec eux, qui seront d'accord avec leur vision du monde. Et donc, on va aller grandement dans cette direction. Et donc, qui conduit maintenant au fait que le journal, mais après, il faut leur poser la question, il faut discuter avec eux, moi, je vous donne mon analyse, avec quelques éléments de l'intérieur quand même et d'observation, fait le parti de mettre le paquet sur l'économie et entreprise. C'est le nouveau supplément du Monde depuis, je crois, avril. On fait des colloques en commun avec les grandes entreprises. L'AFEP, l'Association française d'entreprises privées, qui est la crème du MEDEF, si vous voulez. On interview les grands PDG, la première interview en coopération avec l'Institut de l'entreprise et de Monsieur Xavier Huillard, PDG de Vinci, etc. C'est des choix rédactionnels.
Quand je lis en première page que sur telle ou telle plage il y a eu un naufrage et que des gens sont morts noyés, c'est dommage parce qu'ils n'avaient pas d'engin de sauvetage. Je suis triste un court instant, mais ça dure pas longtemps car j'ai mis de l'argent dans les actions d'une société, mon présage qui fait des bouées de sauvetage. Je suis actionnaire et j'aime beaucoup l'argent. Si je sais bien pleurer par devant, je sais aussi rigoler par derrière. J'ai parfois un peu honte d'aimer autant l'argent, mais quand je fais mes comptes, je suis très 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 content. Quand j'entends à la radio qu'un grand marchand d'auto met des gens sur le carreau pour fabriquer très loin, pas cher ses autos, là où le boulot ne vaut pas un euro, je suis triste un court instant, mais ça dure pas longtemps car j'ai mis de l'argent dans les actions de la société en question, et pour moi ça fait des ronds. Je suis actionnaire et j'aime beaucoup l'argent. Si je sais bien pleurer par devant, je sais aussi rigoler par derrière. « J'ai parfois un peu honte d'aimer autant l'argent, mais quand je fais mes comptes, je suis très 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 content.
Hervé Kempf, vous couvrez l'histoire de Notre-Dame-des-Landes et il y a un moment où la pression indirecte, évidemment, des propriétaires et des annonceurs qui vont avec ces propriétaires rentre en collision avec votre façon de voir les choses et ce que vous écrivez et ce que vous décrivez sur Notre-Dame-des-Landes.
Le problème, on m'a empêché de suivre un dossier que je couvrais depuis longtemps en apportant beaucoup d'informations sur ce sujet, et avec la volonté de poursuivre et des reportages et des enquêtes. Je ne veux pas savoir ce qui a pu se passer. S'il y a eu des pressions, la direction devait y résister. S'il n'y en a pas eu, elle devait me laisser travailler.
Conclusion, il y a eu des pressions, selon vous.
Mais je ne sais pas, je ne sais pas.
Vous n'avez pas les preuves, parce que ça c'est votre enquêteur précis et qui n'affirme rien sans avoir enquêté, mais vous suggérez.
J'ai dit et j'ai écrit que j'avais des indices qui en aucun cas ne sont des preuves. Et j'ai dit que je les publierais si c'était nécessaire.
Le modérateur du Monde cite vos ex-patrons Porquerie et Frachon qui disent il s'agit, vous concernant, d'insinuations délirantes et infamantes. Vous êtes l'auteur d'insinuations délirantes et infamantes envers votre ancienne hiérarchie.
Mon propos est simplement de dire s'il y a eu des pressions, la direction devait y résister. S'il n'y en a pas eu, comme elle le dit, il devait me laisser travailler.
Hervé Kempf, qu'est-ce que c'est pour vous un journaliste engagé? Parce qu'on vous classe parmi les journalistes engagés. Que ce soit au Monde, où effectivement vous avez deux attitudes dans vos enquêtes. C'est précis, c'est fouillé. Beaucoup de sites, de blogs sont appuyés sur votre boulot pendant des années. Puis d'autre part, il y a vos chroniques, vos éditos, quoi, disons, vous prenez position, position qu'on retrouve dans vos bouquins, votre vision, la vision que vous avez de l'écologie, parce que vous n'êtes pas seulement un écolo, vous avez une vision de l'écologie. Qu'est-ce que c'est pour vous un journaliste engagé? Est-ce que c'est un pléonasme d'abord, chez un journaliste engagé?
Moi, je vais d'abord dire que pour l'instant, je suis un journaliste dégagé. Je rappelle quand même que je ne suis pas absolument parti de mon plein gré. C'est-à-dire, si j'avais pu continuer à travailler sur Notre-Dame-des-Landes et d'autres sujets, j'aurais continué à travailler dans ce journal. Donc j'ai été dégagé. Voilà. Moi, le mot qui m'importe, c'est journaliste. Et c'est de ça dont on a parlé tout début, quand on a évoqué l'exactitude des faits. Le point essentiel, c'est est-ce que les faits que l'on rapporte au public sont exacts? Est-ce que la relation des expériences que l'on peut vivre dans les reportages est exacte et honnête? Est-ce que dans l'analyse d'un sujet, la présentation d'un sujet, on va présenter le point de vue des différentes parties en présence et faire sentir la difficulté de trancher d'un seul coup des situations qui, dans la majorité des cas, sont toujours ambiguës avec plusieurs points de vue? Voilà, c'est ça un journaliste.
Il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, il n'y a pas de personnel pour les écoles. On n'arrête pas de nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour les services sociaux. Alors il y a toujours de l'argent pour les hôpitaux.
Plusieurs milliards. Il y a 145 aéroports en France, il y en a 45 en Allemagne. Il y a autant de passagers transportés dans un pays que dans l'autre. En même temps, il faut arrêter de gaspiller de la terre agricole.
Nous tentons de construire ici des solidarités, des confiances, de la puissance collective, des moyens d'action.
On se bat contre ce projet, mais c'est pas parce que nous on est touchés particulièrement, c'est parce qu'il faut arrêter des projets de société comme ça.
Nous voulons prendre des décisions qui concernent nos vies.
Après, il y a la question des registres d'écriture. Je ne prétends pas que pour un grand journal, enfin, un journal qui a une prétention à la généralité, l'angle écologique doive être le seul. Mais quand on crée un espace dédié à l'écologie, dans la chronique écologie, dont on attend qu'elle soit personnalisée, eh ben c'est tout à fait normal qu'il y ait un point de vue écologique qui s'exprime. Enfin, vous voyez ce que je veux dire?
Non mais Hervé Kempf, oui, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Écologie, quand on a dit écologie, on n'a rien dit finalement. Parce qu'il y a différentes façons d'être écolo. et d'avoir un point de vue. Et vous avez un point de vue, disons, en gros, qui est issu de, pour moi, à mes yeux, de la pensée d'André Gors, c'est-à-dire l'écologie politique. Et encore ces deux mots à coller ne disent toujours pas ce que ça veut dire. Il faut préciser aussi que depuis 2006, je crois, vous collaborez à un site qui s'appelle Reporter, Terre, TE2RE, d'une part, d'autre part que vous avez écrit un certain nombre de bouquins, Comment les riches détruisent la planète, le titre quand même vous épingle sérieusement, Pour sauver la planète, sortez du capitalisme, rien que les titres, mon cher Hervé Kempf, ça c'est de l'engagement. Et je suppose que vos directeurs successifs ont eu la curiosité de découvrir que vous travaillez pour Reporter et que vous écrivez des bouquins la nuit, je ne sais pas quand d'ailleurs.
Est-ce que le fait de faire des choix empêche de faire son travail de journaliste, de rapporter des faits, d'être exact? Mais il n'y a pas une vérité qui s'impose. Tout mode d'appréhension de la réalité oblige, on sait qu'on n'est pas universel, qu'on n'est pas parfait, qu'on n'est pas Dieu. Chaque humain, chaque regard humain est limité, j'allais dire, physiquement et intellectuellement. Donc il faut assumer ses choix. Et est-ce que le fait d'avoir un choix empêche de faire du bon journalisme? C'est ça la question. Est-ce que nous, sur Reporter, ou maintenant effectivement je vais me déployer, j'en dirai un mot, ça va nous empêcher de donner aussi la parole à des gens qui ne sont pas d'accord?
Ça relève, oui, c'est souvent pratiqué, ça relève de l'auto-intoxication. Si on ne sait pas ce que pense l'adversaire, on ne risque pas de le combattre.
Voilà. Bon, moi, je prends un exemple The Economist que j'aime bien lire parce que c'est un bon journal. Malheureusement, là, je ne vais plus pouvoir le lire parce que ça coûte un peu cher. Bah oui, c'est un petit problème aussi. Hein. Je perds beaucoup de moyens de travail, mais bon, peu importe. Mais voilà, je lis The Economist, la ligne est extrêmement claire. Mais il y a des bons articles. The Economist, il faut le savoir, le rédacteur en chef de The Economist est en quelque sorte le greffier du groupe Bilderberg, que peut-être les auditeurs de là-bas, si j'y suis, connaissent. Voilà, juste pour situer. Il est le porte-parole de l'oligarchie, du système oligarchique, de l'état présent du capitalisme. Bon, ok, on le sait, on sait d'où il parle. Moi je lis tous les jours, enfin pas tous les jours, mais aussi souvent que je le peux, Les Échos, c'est un bon journal. Ben, c'est pas pour autant que je ne sais pas que Les Échos défend le système capitaliste.
Et les pages saumon du Figaro.
Voilà, mais je le lis le Figaro. J'ai pas de, je trouve des bonnes choses dans le Figaro. Je sais où d'où ils sont. Je sais qu'ils appartiennent à Dassault. Je lis La Croix. Je sais leur ligne. Ils sont catholiques et ils croient que Dieu existe. Et ils font quand même du bon journalisme. Je pourrais citer plein d'exemples. Ils assument. Et La Croix est engagée. The Economist est engagé. Le Figaro est engagé.
L'humanité
est engagée. Mais tout le monde est engagé. Arrêtons de croire qu'il n'y a pas d'engagement. Donc, que les gens qui me disent que je suis engagé disent qu'eux ne sont pas engagés, qu'ils le prouvent. Après, on va aller au fond sur l'écologie, parce que je ne veux pas oublier ce que vous dites. Et là, il y a le point crucial. Effectivement, si vous faites votre travail en suivant l'écologie, en allant sur le reportage de terrain, en lisant les rapports des scientifiques, en faisant attention à ça, au bout des années, on arrive à se dire, un, la situation de la biosphère, de l'équilibre biosphérique de la planète est grave, il est en danger. Si on continue, il va se détériorer gravement. Et la détérioration grave de l'état de la planète, eh ben ça veut dire que les sociétés humaines ne vont plus pouvoir vivre, pour autant qu'elles le soient, dans la paix et dans le respect de la recherche de cet idéal essentiel qui est que chacun vive dans la dignité humaine. C'est ça qui est en cause. Voilà, c'est un point de vue. C'est un point de vue que j'assume et que beaucoup d'autres, heureusement, assument et qui ne m'empêchent pas de faire mon travail sérieusement. Voilà, c'est clair. Il y a deux visions du monde. Alors, si on dit que l'une est engagée, il faut dire que l'autre aussi est engagée.
Voilà.
Et est-ce que ça nous empêche de faire du bon travail? Après, moi, je regarde simplement, dans mes éventuels contradicteurs, si ils sont précis dans leurs faits, s'ils disent des choses exactes, etc.
L'écologie, c'est un changement radical et fondamental des rapports de l'homme, bien sûr, à la nature, mais aussi à lui-même et à ce que est ou doit être la société.
André Gors, France Culture, 1991.
Le projet de société écologique est un projet qui cherche à subordonner, à soumettre la vie, surtout la vie économique, et le développement économique à des critères qui ne sont pas économiques. C'est un projet culturel. Bien sûr qu'un projet culturel a toujours et nécessairement une dimension éthique et affirme l'autonomie du culturel et de l'éthique par rapport à l'économique. Alors que tous les autres, les libéraux, font l'inverse. Il subordonne le culturel et l'éthique à des critères de rentabilité et à des calculs coûts-avantages. Vous n'avez plus comme critère d'évaluation suprême, unique et suprême, que la question de savoir est-ce que c'est rentable, est-ce que ça ne l'est pas, est-ce que ça permet d'expansion et la santé de l'entreprise, ou est-ce que ça ne la permet pas. Donc, vous n'avez aucune orientation. Le seul but dans la vie et le seul critère de réussite, c'est gagner de l'argent, croître. Et nous en sommes là, c'est-à-dire que nous avons perdu tout repère et tout sens du haut et du bas, du bien et du mal.
Hervé Kempf, il y a un dessin de Plantu qui vous représente en train de rebondir. Vous quittez Le Monde et vous rebondissez vers Reporter. Mais je voudrais quand même qu'on revienne en arrière sur votre enquête sur Notre-Dame-des-Landes, qui est quand même ça a été la pomme de discorde. C'est là-dessus que ça a clashé. Et il y a un moment, quand même, vous avez vous avez mis en lumière, vous avez été le premier à montrer le rôle d'un certain préfet dans cette histoire. Et beaucoup d'entre nous ont repris cette histoire. Là-bas, j'y suis, par exemple, et d'autres confrères, ont sauté là-dessus. Et puis surtout, d'abord, les militants de Notre-Dame-des-Landes ont sauté sur cette information. Est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu de quoi il s'agissait ?
Eh bien, M. Agolstein, qui était pendant 2 ans préfet de Loire-Atlantique, donc en charge de la préparation de l'appel d'offres du projet d'aéroport entre les différentes compagnies soumissionnaires. Ensuite, il a quitté ce poste. L'appel d'offres a suivi son cours et la compagnie Vinci a remporté cet appel d'offres. Et 1 ou 2 ans plus tard, M. Agolstein a fait valoir ses droits à la retraite et a été embauché comme conseiller du président de Vinci Autoroute, si j'ai bonne mémoire. Bon, tout ça est écrit. Ça, c'est un fil. Ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire, même si M. Agolstein, que j'avais interrogé, j'ai discuté avec lui au téléphone, considérait que c'était parfaitement légal, ce qui était exact, et considérait que ça n'était pas un conflit d'intérêts, et à mon sens, là, on pouvait penser l'inverse, ça révélait qu'il y avait des intérêts économiques, il y avait en tout cas des questions fortes à se poser autour de ce projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Quelques semaines après, j'ai pu faire, essentiellement par l'intermédiaire de la chronique, puisqu'il m'était interdit de travailler dans le journal, mais là, donc, dans l'espace des 2600 signes de la chronique, en page 15 ou 16, enfouie, une autre enquête sur, en m'appuyant sur le travail de contre-expertise des opposants à Notre-Dame-des-Landes, qui était très sérieux et précis, montrait que un point fondamental du dossier d'enquête d'utilité publique avait été très largement extrapolé et avait des bases, sinon fausses, en tout cas extrêmement discutables. Après, moi, ce que je voulais dire au journal qui m'a empêché de poursuivre ce travail, c'est qu'il y avait un travail d'enquête. Il y avait des fils à tirer. Je ne sais pas à quoi conduit une enquête. On ne sait jamais quand on fait une enquête. Et l'avantage des grands journaux, c'est que moi, il m'arrivait de passer 1 mois sur une enquête. Je faisais aussi mon boulot par ailleurs. Et puis, ça venait pas, peut-être 2 mois. Et puis non, ça marchait pas. Le truc était pas bon. Et ben voilà. Là, je leur demandais, écoutez, je pense, le fil Agolstein, le fil Vinci, le fil plus général des partenariats publics-privés, le fil des lobbies, employons le mot, des grands travaux d'infrastructures méritait d'être suivi. J'avais déjà fait une grande enquête que j'avais pu faire dans les journaux Le Monde sur l'A65, l'autoroute A65, une autoroute totalement absurde, inutile entre Pau et Langon, dans le sud-ouest de la France. Et là, d'ailleurs, j'avais commencé à tirer des fils. Voilà, je demandais simplement à chercher à tirer ce fil et puis aussi raconter sur place ce qui se passait à Notre-Dame-des-Landes, qui était un autre objet d'enquête qui est absolument passionnant à tout point de vue.
Je vis ici, je reste ici, je vis ici, je reste ici, je vis ici.
Village en danger, Vinci déporte la population. Alors ça, c'est écrit sur le toit d'un petit cabanon.
Trafic, info, musique.
Vous êtes dans le 12-14.
Radio Vinci Autoroute.
Voilà, l'histoire de ce journaliste, Hervé Kempf, donc, qui quitte le journal où il a travaillé depuis 15 ans. Évidemment, au sein du journal, ça n'a pas été sans réaction de la part de l'encadrement. du journal, de la part aussi de la société des rédacteurs du Monde, ulcéré de lire dans le quotidien Libération que Hervé Kempf dit par des moyens surtout indirects, c'est-à-dire en nommant une hiérarchie compatible avec leurs idées, influe sur l'orientation des médias qu'ils possèdent. Donc il voit derrière, enfin, c'est BNP, c'est-à-dire Berger, Nil et Pigas, qui sont détenteurs depuis 2010 du capital à 63,8%, une orientation du journal qu'en fait, tout simplement, il désapprouve. Alors on va essayer d'équilibrer un peu les points de vue en appelant au téléphone Didier Pourquerie du Monde.
Allô ?
Ah ! Didier Pourquerie, donc, dites-nous un peu quelle est votre version des faits et quel était votre rôle à l'époque et puis aujourd'hui.
Donc, moi, je suis rédacteur en chef au Monde. À l'époque, j'étais à la direction de la rédaction. À la direction de la rédaction, je suis responsable de tout ce qui est contenu dans le journal, de tous les reportages, etc. Et donc, j'ai eu une conversation avec Hervé Kempf en lui disant, écoute, ce que je souhaite, c'est qu'on sépare bien ce que tu racontes dans ta chronique. La chronique est libre, hein. Les chroniqueurs sont libres chez nous, comme ailleurs certainement, mais en tout cas, chez nous, ils sont libres. Tu es très, très engagé contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Ça, c'est ton choix. Mais ce que je souhaite, c'est que tu arrêtes de suivre, d'y aller en tant que journaliste reporter pour couvrir les faits. Je vais envoyer plutôt un autre journaliste qui est moins partie prenante de l'affaire et qui sera... disons plus objectif, si ce mot a un sens.
Ah oui, objectif. On va voir le sens de ce mot. Le sens que voilà. Le Monde donne aujourd'hui à ce mot. Didier Pourquerie, ce que dit et suggère en tout cas Hervé Kempf, dans le texte qu'il a publié sur cette affaire, c'est quand même pas rien. Un journaliste de renom qui est dans un journal de référence depuis 15 ans, ce dont rêvent tous les journalistes, les jeunes journalistes et même les vieux, qui tout d'un coup s'en va de cette façon. Ce qu'il suggère, non pas ce qu'il affirme, mais ce qu'il suggère, c'est que les intérêts capitalistiques du journal sont en jeu. Ce à quoi vous répondez, en tous les cas les hiérarchies du Monde répond qu'il s'agit là d'insinuations délirantes et infamantes.
Enfin, écoutez, s'il y a quelqu'un qui peut en parler, c'est bien moi, puisque c'est moi qui lui ai dit « Écoute Hervé, je préférerais que ça soit quelqu'un d'autre que toi qui aille couvrir Notre-Dame-des-Landes sur le terrain. » Donc c'est moi qui ai pris cette décision. Et j'ai pris cette décision tout seul. J'ai eu à aucun moment... Mais à aucun moment, enfin je veux dire, ça fait 35 ans que je fais ce métier, je veux dire, j'ai jamais reçu aucune consigne de qui que ce soit, de quelque actionnaire ou de quelque entreprise que ce soit pour couvrir un sujet. C'est juste en tant que patron d'une rédaction que j'ai décidé ça, voilà, c'est aussi bête que ça.
Didier Pourquerie, oui. Selon vous, alors Hervé Kempf est un journaliste estimable, c'est un homme estimable, avec effectivement, comme vous dites, son engagement qu'on connaît à travers ses livres, etc. Selon vous, qu'est-ce qui fait, encore une fois, qu'un journaliste de ce calibre s'en va de cette façon ?
Écoutez, on avait quelqu'un qui était en train d'écrire des livres sur l'oligarchie dont fait partie Le Monde, les dirigeants du Monde, les actionnaires du Monde, etc. Donc, il était très, très, très critique vis-à-vis de tout ce qui était autour de lui, au Monde, à la limite, et qui était en même temps salarié et chroniqueur du Monde. Il y a un moment où il y a un problème de cohérence. À la limite, ça, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est des problèmes beaucoup plus terre à terre. C'est de regagner la confiance des lecteurs. Et les lecteurs, si je peux leur dire, voilà, on envoie un reporter à Notre-Dame-des-Landes qui n'est pas partie prenante, je préfère. C'est des métiers différents d'être chroniqueur et reporter.
Merci à vous. Merci. Bonne journée. Merci. Voilà le point de vue de Didier Pourquerie. Il faudrait évidemment développer. C'est des sujets importants, encore une fois, à cause de l'influence considérable de ce journal sur les autres, sur les médias, sur les journalistes et sur nous tous, sur notre façon de penser. On retrouve pour finir Hervé Kempf.
«
Alors, maintenant, vous vous lancez dans une nouvelle aventure, donc reporter. Là, vous allez vous investir. Dites-nous comment vous allez travailler, parce que ça, ça excite, ça pose des questions. Comment on fait? On sait qu'il y a finalement Internet, mais enfin, il n'y a pas beaucoup de succès pour l'instant. Remarquable, on a l'exemple de Mediapart, qui est un succès, Arrêt sur image, qui a l'air de se maintenir, on ne sait pas trop. Et puis après, il y a quelques sites courageux et de référence, quoi, disons, mais qui ont du mal, qui rament. Comment vous allez vous y prendre et avec quel fonds? Dites-nous un peu des choses concrètes et sonnantes et trébuchantes. Vous n'avez plus cette carte magique, cette clé formidable qui dit « Allô, bonjour, je suis Hervé Kemp, je suis rédacteur au Monde ». Ça, le préfet vous prend tout de suite.
Eh ben, on va voir. Il n'est pas exclu que un jour prochain, j'appelle le service de la communication de Vinci et je dise bonjour. Ici Hervé Kempf, de Reporter, le quotidien de l'écologie. J'avais telle question à vous poser. Si, ouais, par hasard, il ne répondait pas, ben, ça serait dit. Et s'il répondait, leur point de vue serait exprimé de manière normale dans les colonnes du site Reporter. Bon, Reporter a été un journal en 1989. Et un journal qu'on avait lancé avec les moyens du bord, on est jeune, on est avec vraiment les moyens du bord, du bricolage. Mais on voulait faire un vrai journal, en quadrichromie, un magazine, avec une équipe de journalistes et avec l'esprit en empathie avec le mouvement, en accompagnant le mouvement environnemental, mais en aucun cas militant. On voulait faire des enquêtes, on voulait voir, on voulait raconter. On l'a fait, ça a marché. On a fait en moyenne 26 000 ventes au numéro et on a eu 4 400 abonnés payants en 1989. Mais le problème, c'est qu'on était totalement sous-capitalisé, donc un journal, il faut quand même 2-3 ans pour tenir, pour bien s'installer. On était obligé de mettre la clé sous la porte. Bon, après, moi, j'ai poursuivi ma vie toujours sur les questions d'environnement et d'écologie. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Le Monde m'avait embauché. C'est parce que, lointainement, j'avais fait un très bon travail dans Reporter. Et puis, en 2006 ou 2007, je ne sais plus très bien, il faut que je vérifie ce point-là, on a relancé Reporter. Mais très simplement, c'était une sorte de blog, c'était pour accompagner un peu le bouquin « Comment les riches détruisent la planète ». Et donc maintenant, bah, c'est un outil qui existe, qui a plein de défauts. Par exemple, bah, la maquette, elle est un peu ringarde, elle est un peu...
On peut dire ça.
Mais disons-le, bah, forcément, comment vous voulez, c'est avec les moyens du bord, quoi. C'est un peu, nous, le week-end, bah, on répare quelque chose dans son garage parce qu'on aime le bricolage. Bah, moi, le bricolage, c'était ça. Et puis maintenant, bah, on a un outil, on va le développer. Alors, la question, c'est comment on le finance? Alors, pour l'instant, moi, j'ai deux sources de revenus. Un, à la suite de mes bouquins qui suscitent de l'intérêt du public, le dernier, par exemple, Fin de l'Occident, Naissance du Monde, bah, j'ai fait beaucoup de conférences ou participé à des débats publics. Bah, depuis quelques mois, on a créé une association, La Pile, pour soutenir Reporter, qui s'appelle Association pour une presse indépendante, libre et écologique. Et depuis quelques mois, bah, je demande aux gens qui veulent me faire venir, écoutez, je veux bien venir, mais je suis désolé, il faut payer. Non pas moi, mais La Pile, c'est pour soutenir Reporter. C'est un des moyens de financement de Reporter. Et pour être précis, ça va être quelques centaines d'euros. Alors ça dépend de qui m'invite. Et généralement, moi, je trouve ça super. C'est que la majorité de gens comprennent très bien et disent bah oui. Parce qu'ils voient en quelque sorte que c'est pour quelque chose de vraiment
bonne cause,
utile.
Pour une cause, au moins.
Voilà. Ouais. Et la deuxième source de financement, c'est une fondation alternative qui nous a baillé 7000 euros pour l'année. Parce qu'on est dans une logique professionnelle. Moi, je veux payer le travail des journalistes avec les moyens du bord, mais il faut payer. Par exemple, là, si tout va bien, justement, avec ce budget dont je vous ai parlé, on va pouvoir embaucher à mi-temps, sur un CDD de 4 mois, un jeune journaliste. Donc, on va pouvoir... Moi, il y a mon boulot, pour l'instant, je suis Pôle emploi, donc je suis chômeur, donc à moins que j'ai une proposition mirifique, mais pour l'instant, il n'y a pas eu trop de coups de fil, je vais m'investir sur Reporter. On lance un appel aux dons, au soutien, qu'on va produire la suffisamment bonne information, et là, ça va être le critère, que les gens vont comprendre, oui, ils font du bon boulot, on leur envoie 1 euro, 2 euros, 10 euros, 100 euros, 1000 euros, ce que vous voudrez. On pourrait faire des journalistes d'investigation volontaires. Enfin bref, on pourrait faire des zones autonomes de diffusion de l'information, des ZAD informatives et des réseaux de ZAD d'information. Voilà ce qu'on pourrait faire. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'on pourrait discuter.
Celui qui paye l'orchestre choisit la musique. C'était un entretien avec Hervé Kempf. Merci également à Didier Pourcurie du Monde. Vous retrouverez le site reporter.co.uk sur www.reporter.net. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, également sur tout ça, à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur notre site là-bas.org, là-bas.org. Et il y a aussi la page Facebook de là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Yann Bouillot et Jean-Noël Vélan. Cette émission a été réalisée par Jérôme Chélius et Franck Adhérer, préparée avec Pierre-Yves Bulteau, au montage Anna Elverzo. Stéphanie Fromentin attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Là-bas si j'y suis, on se retrouve demain à 15h. Je vous laisse tout de suite avec Hervé Pochon, avec un temps de Pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Bonjour, monsieur. Je peux vous demander ce que vous venez faire ?
Je viens travailler dans mon bureau.
Ah bon, d'accord. Et c'est quoi votre travail ?
Je ne donne pas d'interview, merci.
Ah bon, pardon. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur ?
Là, je suis agent de sûreté. J'attends de vous surveiller, vous qui venez à la conférence des ambassadeurs.
La conférence des ambassadeurs, ça doit être sympa, non ?
Ah bah vous allez découvrir par vous-même, dans quelques instants.
C'est vrai ?
Voilà, vous pouvez pas sortir après la pub.
Eh non, il n'y a pas de pub sur France Inter, monsieur. Ah bah, c'est si, le service public.
On va en mettre un peu, bah, après la musique alors. Hein.
J'ai un journaliste de France Inter, par contre je l'ai pas sur la liste des journalistes.
Négatif, je vais pas avec ça dans l'affaire.
Alors, le nom c'est Hervé Pochon.
Bonjour à tous et bienvenue au ministère des Affaires étrangères européennes où va se dérouler la 21e conférence des ambassadeurs. Et l'entrée est très surveillée, hein, c'est pas facile.
Ah bah tu veux mettre
Oui. Ah
mais parce que la Syrie. On parle de Syrie.
De la Syrie. On parle de tout ce que vous voulez.
Alors qu'est-ce qu'ils disent sur la Syrie?
Et vous pensez qu'il faut intervenir
bien
ou pas?
Bien sûr, comme en Afrique.
Ah oui?
Pourquoi ils interviennent en Afrique et ils n'interviennent pas en Syrie?
Je sais pas votre avis.
Rentrez, vous allez interviewer mes collègues à l'intérieur. Ils aimeraient bien vous entendre, venez.
Mais on est où ici, monsieur?
Ils ont envie d'être interviewés. C'est eux qui ont envie de faire des.
C'est la sécurité
voilà,
ici.
Voilà, il y a France Inter qui veut vous interviewer là.
Oui, mais ils rigolent pas, vos collègues. Hein. Ils sont sérieux. Qu'est-ce que vous faites, monsieur?
Ils sont de la Côte d'Ivoire. Ils sont de la Côte d'Ivoire.
C'est la Côte d'Ivoire. C'est la
Côte d'Ivoire. Pour la chaise. On a su la sécurité incendie du site. Hein.
Ah oui. Alors attendez, alors ici, il y a le Burkina Faso.
Voilà.
Votre prénom?
Adonis.
Adonis. Vous êtes de la Côte d'Ivoire?
Ouais.
Et votre prénom?
Mélège.
Et vous, monsieur? Le chef, il ne veut pas parler?
C'est Bois, ici, de la Côte d'Ivoire.
Aussi, Côte d'Ivoire. Et vous, monsieur?
Bon, il y a le Togo, le Bénin. Ah, c'est monsieur Tosu Prudence.
Prudence, c'est un joli prénom, ça.
Affirmatif.
Affirmatif. Prudence, tout se passe bien.
Affirmatif, correctement.
Pourquoi vos parents vous ont appelé Prudence?
C'est ma date de naissance, ma date de l'anniversaire, c'est pourquoi.
Ah, si vous êtes né le jour de la Sainte Prudence ?
Affirmatif, c'est ça, c'est pourquoi. Et je profite de cette occasion pour souhaiter, je ne sais pas mes condoléances pour mes frères qui sont en train d'enterrer mon grand-père actuellement au Bénin. Et là, ce que je ne suis pas là, je suis au boulot, mais je suis de tout cœur avec eux.
Il avait quel âge, votre grand-père ?
Oui, c'est né vers un ancien combattant, il est français, donc c'est ça. C'est un ancien combattant, disons 97 ans, 98 ans. Ouais.
Ah, pas mal.
Pas mal, mal, oui.
Bon, et vous avez vu passer l'ambassadeur de France au Bénin ?
Affirmatif, juste un petit coucou seulement. Pour pas mélanger les torchons et les serpillères.
Les torchons et les serpillères, vous avez dit ?
C'est pas ça, mais quand même, bon, il faut respecter le boulot.
Mais vous n'êtes pas un torchon, hein, et c'est pas...
Affirmatif, ouais, c'est ça.
Bon, bah écoutez, tout va bien donc ici.
Il y a un autre qui voulait vous parler de la libération de son président Gbagbo, lui.
Non, on ne parle pas de politique, là, on est au travail. Ouais. Non, Gbagbo, il est en prison. Il va être jugé. S'il doit être libéré, il va être libéré. S'il ne doit pas être libéré, il restera en prison. C'est comme ça.
Parce que vous êtes ivoirien comme.
Non, monsieur.
Monsieur, il est du Burkina Faso.
Burkina Faso, ivoirien, guinéen, togolais, en fait, c'est le melting pot. C'est la diaspora. C'est tout l'Afrique en fait ici.
Et alors ça se passe bien ?
Ah, ça se passe bien. De temps en temps, il y a quelques petits couacs, mais bon, on fait tout pour que ça se passe bien.
C'est quoi les couacs ?
Oh, vous savez, hein, quand on travaille en équipe, il y a toujours. des petits malentendus, mais bon, ouais. Rien de méchant, hein, c'est, voilà, c'est comme dans tout travail. Hein, ouais. Voilà.
On
la
transmet. Bon service à 19h. Je ramène le PDA avec moi.
C'est qui le PDA?
C'est le contrôle des véhicules sur l'accès.
Ah d'accord, c'est le contrôle des véhicules, on vérifie qu'il n'y a pas des bombes dessus et des. Voilà.
Merci, c'est ça, oui.
D'accord. Bon, comment ça se passe, monsieur, la vie? Vous êtes le seul blanc, là.
C'est archi-faux. Je ne suis pas le seul blanc. Ah. Voici un bon exemple.
C'est vrai, il y en a un deuxième qui vient d'arriver.
On peut décrocher ou pas?
C'est un reste de photo de Chine.
Ah oui. Intéressant. C'est vous qui revenez de Chine?
Ouais, c'est... Oh non, c'est un voyage que j'avais fait en 2011 à Pékin.
Vous avez des facilités pour voyager quand on est au ministère des Affaires étrangères?
Non, non, c'est pas ça. C'est que je suis marié à une Chinoise. Voilà, ça facilite.
Effectivement.
Voilà.
Ouais, ça se passe bien?
Ici au ministère, oui, très bien.
Et avec votre femme?
Ma femme, elle ne connaît pas ici.
Non, mais avec votre femme, ça se passe bien? Et les relations franco-chinoises?
Elles sont au beau fixe.
Ah.
Voilà. Chez moi, je veux dire, chez moi.
Bien sûr, mais c'est ça qui compte.
Maintenant, entre la France et la Chine, c'est déjà autre chose.
Le thème de la 21e conférence des ambassadeurs, c'est la France, puissance d'influence.
Aucune idée.
Est-ce que vous trouvez que la France est une puissance d'influence?
Oui, je crois que oui.
Quand même, la France, c'est un grand pays. Il ne faut pas s'amuser avec la France aussi. Bah oui. Il
ne faut pas s'amuser, vous dites?
Bah oui, il ne faut pas s'amuser avec la France.
Il est costaud.
Il est costaud, la France. Bah oui.
Vous trouvez que c'est une puissance d'influence?
Oui, quand même, oui. Surtout culturellement, oui, je pense que oui.
Bon, bah, en tout cas, merci pour votre accueil. Hein. C'est pas tous les jours qu'il y a les gars de la sécurité qui acceptent de parler. D'habitude, ils disent « Ah non, 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 on peut pas parler. Hein. »
Un temps de prochain, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain.
On se retrouve demain.
France Inter et l'Odéon Théâtre de l'Europe présentent du 14 septembre au 19 octobre « Au monde et les marchands » de Joël Pommerat au Théâtre de l'Odéon. Une très riche famille hantée par d'obscures attentes. Des femmes aux existences modestes tourmentées par l'excès ou le manque de travail. Des intuitions, des interrogations communes, un envoûtant diptyque proposé par Joël Pommerat. Retrouvez Joël Pommerat le 23 septembre à 20h dans L'Humeur Vagabonde et sur franceinter.fr. Vous écoutez France Inter, il est 16h. Le point sur l'actualité, Laetitia Gaillet.
Suite aux violences de ces dernières semaines aux urgences des hôpitaux de Marseille, la direction de l'APHM a présenté aujourd'hui aux salariés des mesures pour assurer la sécurité des personnels. Ce plan en 30 points prévoit notamment la fermeture nocturne des points d'entrée de l'hôpital et de certains services qui ne seront désormais accessibles qu'au seul personnel. Autre mesure, le renforcement de la vidéosurveillance. Le Parti Socialiste organisera le 5 octobre prochain un forum contre l'extrémisme. Il aura lieu à Paris, expliqué aujourd'hui David Assouline, le porte-parole du PS. Il y réunira des universitaires, des intellectuels, mais aussi des militants associatifs et des syndicats. David Assouline appelle à l'unité et à la vigilance. Il faut, dit-il, porter l'offensive contre l'extrême droite et l'extrême droitisation de la droite. Les candidats à la reprise de Kémoine dans le Rhône ont obtenu aujourd'hui un délai supplémentaire pour finaliser leur offre. Initialement, ils avaient jusqu'à ce soir 17h. Aucune date donc n'a été précisée pour l'instant. C'est juste que le tribunal de commerce rendra sa décision sur l'ancien pôle vinylique d'Arkema, actuellement placé en redressement judiciaire. Donc décision qui sera rendue fin septembre. Pendant qu'au Congrès américain on débat, les monarchies du Golfe, elles se réunissent. Les ministres des Affaires étrangères des 6 monarchies se retrouveront demain en Arabie Saoudite. Du Koweït au Qatar en passant par Bahreïn, toutes soutiennent sans réserve une intervention militaire en Syrie en représailles à l'attaque présumée chimique du 21 août dernier. Aujourd'hui encore, le gouvernement saoudien a appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités humanitaires envers le peuple syrien pour mettre fin à l'obstination de Damas à tuer davantage son peuple. Par ailleurs, sur le terrain, on apprend aujourd'hui via l'Observatoire syrien des droits de l'homme que le régime a mis fin à une mutinerie ce matin dans la prison de Homs dans le centre du pays. On parle d'un mort et de plusieurs détenus blessés. Cette mutinerie fait suite à la décision de la direction de la prison de transférer un certain nombre de prisonniers. En France, la Corse a commémoré aujourd'hui le 70e anniversaire de son insurrection contre l'occupant allemand et italien pendant la Seconde Guerre mondiale. Après un mois de combat, la Corse était libérée le 5 octobre 1943, premier territoire français à être libéré pendant la Seconde Guerre mondiale. François Hollande sera sur l'île de Beauté le 5 octobre prochain, donc qui sera le point d'orgue des commémorations de ce 70e anniversaire. C'est le site internet de l'Opinion qui le dit aujourd'hui. Le budget de la France 2014 qui sera présenté le 25 septembre prochain au Conseil des ministres est construit sur une prévision de croissance de 0,8%. Ce, après une année passée à 0,1%. Le ministère de l'Économie et des Finances n'a pas souhaité commenter cet après-midi l'information. L'attaquant camerounais Samuel Eto'o met un terme à sa carrière internationale. Il l'a dit hier soir à ses coéquipiers juste après leur accession pour la dernière phase des qualifications de la zone Afrique pour le mondial de l'an prochain au Brésil. Depuis fin août, Samuel Eto'o, 32 ans, joue avec les Anglais de Chelsea. Enfin, la Lotus Esprit amphibie de James Bond a été mise aux enchères aujourd'hui à Londres. C'est Roger Moore qui l'utilisait en 1978 dans L'espion qui m'aimait. Mise à prix un peu plus d'1 million d'euros. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Tous les samedis à partir de 20h, le grand rendez-vous live de France Inter, présenté par Vali.
Cette semaine dans Live Me Do, au studio 105 de Radio France, les femmes et quelques garçons.
J'escalade un crassier, j'erre dans les banquises.
Avec la folie douce de Brigitte Fontaine.
Je finis aux assises.
L'extravagance des sexy sushis, les garçons des Girls in Hawaii, en session acoustique et en exclusivité. Agnès Obel viendra nous interpréter son nouveau single.
Pour assister à l'enregistrement de l'émission, rendez-vous mercredi à partir de 18h devant la porte B de la Maison de Radio France.
Je peux compter sur vous ?
Live Me Do.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
France Inter.
La voix est libre.
Et c'est l'heure de Carrefour de l'Odéon avec Frédéric Clodéon. C'est à vous.
Merci beaucoup Laetitia Gaillet. On vous retrouve à 17h. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et très heureux d'être avec vous. Le temps a changé, mais la musique ne change pas tellement, surtout quand on va chercher celle du XVIIIe siècle. Et donc là, il y a des querelles, c'est ça qui est quelquefois intéressant. Les manuscrits qu'on a retrouvés ou les partitions éditées, celles qui concernent Antonio Brioschi ont été assez débattues. Un peu de bagarre, ça fait toujours du bien. Donc est-ce que c'est de la musique baroque? Est-ce que c'est de la musique préclassique? Du style galant, on s'en moque, il faut que ce soit bien joué, bien sûr. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Brioschi, eh bien, on l'a certainement joué différemment par rapport à aujourd'hui, mais qui est-ce qui peut le préciser? Qui est-ce qui peut dire comment on jouait Vivaldi? Qui est-ce qui peut être absolument certain qu'on jouait Bach de telle ou telle manière? C'est ce que nous dit le livret de ce disque. Le chef d'orchestre, c'est Vanni Moretto. Il se bat contre l'idée qu'il y aurait une façon absolument obligée de jouer la musique ancienne, la musique baroque. De toute façon, il dit celle-là, elle est entre les deux. Elle est entre le baroque et puis le classicisme de Mozart ou de Haydn. Donc, allons directement au cœur du sujet. La musique elle-même, une partition écrite autour de, là on n'est pas sûr non plus, mais enfin 1741, une symphonia en sol majeur d'Antonio Brioschi, presto. Thank you. Presto d'une symphonia, une symphonie, une petite symphonie en sol majeur. À l'époque, elles étaient assez courtes quand même, ces symphonies. L'époque, c'est le XVIIIe siècle, le XVIIIe, si riche de diverses partitions. L'auteur Antonio Brioschi était interprété par l'ensemble Atlanta Fugiens, dirigé par Vanni Moretto. Et voici un personnage dont on sait quelques bribes, on connaît son existence un petit peu, c'est Carl-Philipp Emanuel Bach. Donc, un personnage bien calme en principe, qui avait une belle vie de famille, bien installée. Et pourtant, quand il jouait au clavier, mais il paraît qu'il avait des attitudes tout à fait.